Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, le 15 octobre 1924 paraissait le manifeste du surréalisme. D'autres suivront. Ce 100e anniversaire va nous permettre de revenir sur ce que fut et sur ce qu'est encore, d'une certaine manière, le surréalisme. Le mot en tout cas a fait florès, mais il n'est pas sûr que l'on sache très bien ce qui se cache derrière lui. Dans ce nouveau numéro d'Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, nous sommes en compagnie de l'écrivain et essayiste Philippe Forest, qui a signé la préface des Manifestes du surréalisme, publié chez Gallimard dans la collection La Pléiade. L'histoire du surréalisme se confond avec elle, avec celle de l'esprit, dans ce qu'il eut toujours de meilleur, de plus inventif et de plus ambitieux, écrit-il. Idée, un magazine dominical fait pour éveiller et nourrir votre curiosité. Vous pouvez le retrouver sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et votre moteur de recherche préféré. Bonjour Philippe Forest.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir à ce micro. Merci d'être avec nous. Je l'ai dit, vous êtes écrivain, romancier. Breton n'aimait pas beaucoup les romans, on le verra tout à l'heure. Essayiste également. Professeur de littérature à l'université de Nantes. Beaucoup de vos romans expriment l'expérience du deuil depuis L'enfant éternel, un livre absolument superbe. Vous êtes aussi l'auteur d'une biographie de référence d'Aragon, hein, qui a eu le prix Goncourt en 2015, et d'essai, par exemple, le plus récent est consacré au woke. Déconstruire, reconstruire, la querelle du woke, c'était en 2023. Et moi, j'ai vraiment une admiration, beaucoup d'appétence pour le livre que vous avez écrit, le roman que vous avez écrit en 2010 sur votre père, Le siècle des nuages, votre père pilote, hein, pilote dans l'armée américaine, puis Air France. Et c'est un livre absolument formidable, c'est une biographie, merci. Une autofiction, enfin tout ce que vous aimez et tout ce que vous savez faire. Vous êtes un spécialiste des avant-gardes littéraires. C'est ça ?
Oui, j'ai fait ma thèse il y a très longtemps à la Sorbonne sur Philippe Soler, c'est sur l'avant-garde des années 60, le groupe tel quel, etc. Et puis je m'intéressais fatalement au surréalisme,
fatalement.
qui est l'avant-garde par excellence à laquelle se rapportent toutes les avant-gardes qui ont suivi.
Philippe Forest, vous préfacez donc ce recueil des manifestes du surréalisme. S'il y a bien un mot que l'on emploie aujourd'hui, c'est surréaliste.
Oui, tout est surréaliste. Le nouveau gouvernement est surréaliste.
Oui, c'est ça, assurément.
La situation politique est superlativement surréaliste.
C'est un héritage, en quelque sorte, de ce mouvement.
Oui, c'est pas complètement infidèle au sens premier. C'est-à-dire le surréalisme procède d'une esthétique de la surprise, de l'absurde, du contre-pied. Donc, dans le sens dérivé qui a fini par prendre l'adjectif surréaliste, il reste malgré tout quelque chose du sens premier qu'avait voulu Breton et avant lui Apollinaire.
Vous écrivez dans la préface, tout a été dit sur le surréalisme, mais comme personne n'écoute, comme disait André Gide, je fais à nouveau une préface consacrée à
ça. Oui, de toute manière... C'est un peu le lot de tous les préfaciers, reprendre les textes, les présenter peut-être de manière un peu différente,
oui.
Mais chaque génération nouvelle, bien sûr, se trouve en situation de découvrir le surréalisme. Je sais pas, je pense à un jeune homme ou à une jeune fille de 20 ou 25 ans aujourd'hui. Il a de bonnes excuses de ne pas connaître le surréalisme, mais il n'a pas d'excuses s'il ne se met pas en route pour le découvrir. Et puis même pour les gens qui connaissent déjà le surréalisme, c'était mon cas, bien sûr, parce que ça fait quand même longtemps que je lis et que tout ça et que je travaille sur tout ça. Quand j'ai préparé ce volume, j'ai redécouvert des textes et donc le surréalisme est toujours à découvrir et à redécouvrir.
Comment est né le surréalisme dans ces avant-gardes littéraires françaises ?
Il est le fait de très jeunes gens, ils ont à peine plus de 20 ans, ils ont vécu directement ou indirectement la guerre, ils sont dégoûtés bien sûr par ce qu'est devenu le monde tel qu'ils l'ont vu.
Il s'agit de la Première Guerre mondiale.
Oui, la Première Guerre mondiale, oui. Et en même temps, ils sont... Quoi qu'ils s'en défendent, ce sont des jeunes gens un peu arrivistes, avides de reconnaissance. Ils veulent devenir poètes, être salués comme des poètes. Donc il y a une sorte d'ambiguïté fondamentale. Et puis ils se croisent à la toute fin de la guerre, Breton, Aragon, Soupeau, puis après quelques autres vont les rejoindre. Et puis ils se demandent que faire dans ce monde dévasté pour que la poésie continue malgré tout à exister. Je crois que c'est la question que tous les jeunes poètes se posent toujours, hein, que ce soit en 1918, en 1945 ou aujourd'hui encore en 2024. Le monde change, mais il reste toujours dans un assez piteux état qui en appelle à autre chose, à une autre parole. Et certains pensent que cette autre parole, ça sera la parole de la poésie.
Et André Breton, Philippe Forest, était l'architecte en chef, en quelque sorte, de ce mouvement.
Oui, c'était le stratège. Mmh. C'était aussi celui qui avait pris très tôt des contacts avec des écrivains en vue, comme Paul Valéry, Apollinaire, il y aura André Gide aussi. Donc c'était lui qui était à la manœuvre, et Aragon et Soupeau suivaient un peu. Il était le tacticien et le stratège du groupe. Le chef de file, ouais.
Alors, je vous propose d'écouter dans cette émission notamment André Breton. Hein, je vous propose André Breton interrogé en 1961, donc à la fin de sa vie, et notamment sur Radio-Canada par une journaliste qui s'appelait Judith Jasmin. Et il répond à la question: qu'est-ce que le surréalisme précisément et quelle définition lui donner? Écoutons.
Cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.
Alors, il y a eu, Philippe Forest, beaucoup de définitions du surréalisme, y compris dans le manifeste, évidemment, on va en parler. Dans le dictionnaire abrégé du surréalisme, ce qui est publié également dans ce recueil, il est écrit ceci: « Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas, cessent d'être perçus contradictoirement. C'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. » Donc il s'agit de parler du mystère, de ce qui n'est pas visible.
Oui, à ce titre, le surréalisme hérite du romantisme. Il y a deux grandes définitions du surréalisme. Il y en a une donc, dans le manifeste de 1924. C'est à cette définition-là que Breton se réfère dans le passage qu'on vient d'écouter. Donc le surréalisme comme écriture automatique qui permet d'accéder au fonctionnement réel de l'esprit, au fonctionnement réel de la pensée. Et puis il y a cette seconde définition qu'on trouve, elle, en tête du second manifeste du surréalisme en 1929, celle que vous venez de lire, le surréalisme comme tentative de se situer, même de manière fugace, éphémère, en un point de l'esprit où toutes les contradictions se trouvent résolues. Et là, on est plutôt du côté d'une vision qui hérite de toute une tradition, qui est une tradition mystique, philosophique, l'idée que la réalité, elle est forcément mutilée parce qu'elle est faite de contraires. Or, il s'agit précisément d'échapper à ces contraires pour parvenir à rendre à l'homme une unité première qu'il a perdue.
Une unité qui n'est jamais véritablement définie, qui est toujours une quête, en quelque sorte.
Oui, qui ne se manifeste que sous la forme, disons, d'une illumination, un peu. C'est pour ça qu'il y a une dimension véritablement spirituelle ou mystique, même, qu'on peut attribuer au surréalisme. Et qui vient du romantisme.
Et vous écrivez dans cette préface, Philippe Forest, « L'entreprise dans laquelle Breton se veut résolument engagé, elle vise à saper toutes les valeurs sur lesquelles repose un monde dont la prétendue moralité n'a servi qu'à justifier les meurtres de masse qu'il a commis, et toutes les valeurs, y compris celles en lesquelles un jeune poète est censé croire et sur lesquelles il devrait pouvoir compter. »
Oui, il y a cette expérience de la guerre qui est vraiment fondamentale. Hein. Breton a servi comme infirmier psychiatre et il a eu à s'occuper...
Après des études de médecine.
Oui, qu'il n'a pas mené à leur terme, mais il s'occupait des gens, des soldats qui avaient perdu la raison lors des combats. Et ça l'a beaucoup frappé. D'ailleurs, la légende, qui sans doute est vraie, rapporte que l'amitié entre Aragon et Breton s'est nouée un soir où tous les deux étaient de garde à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris et qu'ils étaient précisément affectés au service des, je sais pas comment on doit les appeler, enfin des malades mentaux, disons des soldats qui, comme je viens de le dire, avaient perdu la raison, et ils se seraient découverts à ce moment-là une admiration commune pour l'autre amont, et pendant que les fous hurlaient dans la salle d'à côté et que les avions allemands bombardaient Paris, ils se seraient mis à se déclamer à tour de rôle des pages des chants de Maldoror. Voilà. Mais il y a cette expérience de la folie, de la brutalité, de la guerre qui est vraiment au principe du surréalisme.
Guerre qui est paradoxalement absente de l'œuvre.
Oui, parce que ces gens qui avaient parfois été des héros, hein, Aragon à la Croix de Guerre, il a fait vraiment une guerre héroïque en tant que médecin auxiliaire, ces gens-là considéraient comme vulgaire de se vanter de ce qu'ils avaient vécu. Et donc, à aucun moment, pour ne pas jouer les anciens combattants, ils ne parlent de la guerre dans leurs textes de l'époque. Il y a une sorte de pudeur comme ça. Mais l'expérience, elle est bien là. Il y a le dégoût de la guerre et le dégoût de la civilisation qui a enfanté la guerre, c'est de cette expérience-là, de ce sentiment-là que procède véritablement le surréalisme.
Alors écoutons une autre définition du surréalisme, signée cette fois Max Ernst, le peintre, sculpteur, auteur de dessins, de collages, de toiles, de sculptures, évidemment. Écoutons-le.
C'est l'exploration et l'exploitation par des moyens appropriés, irrationnels, du sentiment d'absurdité qui s'empare de nous quand nous braquons nos yeux sur le monde qui nous entoure, suivi d'un effort pour systématiser et surmonter ce dépaysement. C'est l'assaut de l'irrationnel par des méthodes raisonnées.
Donc c'est une confirmation, hein, l'irrationnel. Max Ernst qui s'est fâché avec André Breton. Et ce qui marque ce mouvement, c'est qu'ils se sont tous quasiment à un moment ou un autre fâchés.
Oui, on a beaucoup reproché à Breton son caractère dogmatique. On le surnomme parfois le pape du surréalisme.
On y reviendra,
parce qu'il avait une certaine propension à excommunier ceux qui n'étaient pas de son avis. Tous les grands surréalistes, à un moment ou à un autre, ont quitté le mouvement. Certains très tôt, alors pour des raisons politiques, comme Soupault ou Artaud, parce qu'ils étaient hostiles finalement à l'engagement communiste qui allait être celui du surréalisme. Et puis vous en avez d'autres, au contraire, qui considéraient que le surréalisme n'allait pas assez loin sur la voie du militantisme. C'est le cas d'Aragon, notamment, qui va quitter le surréalisme parce qu'il va faire allégeance au Parti communiste français, enfin qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais surtout à l'international, puisqu'il va devenir un militant de l'international, un apparatchnik en quelque sorte. La liste est vraiment innombrable. Il y a plein d'écrivains très importants qui sont passés par le surréalisme et qui n'y sont pas restés justement pour cause, je ne sais pas comment dire, d'incompatibilité d'humeur. Prévert, Queneau, Léris, Bataille n'a jamais été surréaliste, mais il a été proche des surréalistes. Donc c'est un groupe en perpétuelle effervescence, à l'intérieur duquel on ne reste jamais très longtemps, à part Breton et quelques autres qui lui sont restés fidèles, mais qui sont assez rares quand même.
Alors, date importante, c'est 1924 et la publication du premier manifeste du surréalisme.
Oui.
Pourquoi Breton s'est-il cru obligé d'écrire ce manifeste?
Parce que le mot de surréalisme, d'abord, c'est pas vraiment lui qui l'invente, c'est-à-dire on en trouve trace avant le manifeste de 24. Et notamment, celui qui l'impose un peu dans le vocabulaire, c'est Apollinaire, qui utilise ce mot surréalisme dans la préface qu'il écrit pour une pièce de lui qui est jouée en 1917, qui s'appelle Les Mamelles de Tirésias. Et donc, en fait, Apollinaire meurt en novembre 1918. Il y a toute une sorte de querelle d'héritage, donc il y a différents écrivains, groupes qui se disputent ce terme de surréalisme. Donc en fait, je sais pas comment dire, pour parler un peu familièrement, Breton veut mettre son copyright là-dessus. Et donc il se dit, le moyen vraiment de m'approprier pour moi et pour mes amis ce terme, c'est de publier ce manifeste et de faire ainsi le point sur les convictions qui sont les nôtres. Et même, pas seulement sur les convictions, mais aussi sur les gens qui appartiennent au groupe. C'est-à-dire Breton, dans le manifeste de 24, donne la liste des gens qui sont officiellement reconnus par lui comme surréalistes.
Mmh. Alors, ce qui est important, c'est que ce texte va être ensuite remodelé. Puisqu'il y a plusieurs versions de ce manifeste.
Oui, parce que le surréalisme ne cesse d'évoluer, en fait, et ne cesse de traverser des crises. Et donc, périodiquement, Breton éprouve le besoin de réaffirmer son autorité, mais aussi de reconsidérer les conceptions qu'il a mises en avant. Et donc, quand on lit, comme le permet le volume de la Pléiade, les différents manifestes qui se sont succédés et les différents textes qui les ont accompagnés, on voit en même temps à quel point Breton est fidèle à quelques idées qui sont vraiment des constantes chez lui, des convictions très fortes, mais en même temps on voit comment d'époque en époque tout ça se modifie, se transforme, se renouvelle. Parce que Breton meurt en 66 quand même, et donc entre 24 et 66 il y a eu beaucoup de choses, notamment la Deuxième Guerre mondiale, qui a vu Breton précisément s'exiler pour les États-Unis et pour le Canada aussi. Donc on en parlait tout à l'heure, puisqu'on est sur RFI. Pour moi, le plus beau texte de Breton, c'est Arcane 17, qui est écrit par Breton à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui commence par une évocation des paysages d'Amérique du Nord et du Canada, de Gaspésie aussi.
Alors, quelles sont les convictions? Vous parliez à l'instant, Philippe Forest, des convictions d'André Breton. Dans ce premier manifeste, il y a des phrases qui font réfléchir. Par exemple, « L'homme, ce rêveur définitif » ou alors « Le procès de l'attitude réaliste demande à être instruit ».
Oui, il est hostile, comme le sont les écrivains dont il est proche, à une vision qui serait exclusivement rationnelle et rationaliste de la réalité. Pour lui, ce qui compte, et c'est en cela que le surréalisme hérite du romantisme, ce qui compte, c'est la part du rêve, du merveilleux, de l'irrationnel, du nocturne, avec ce que ça peut avoir aussi d'inquiétant et de destructeur. Donc, c'est pour ça aussi que Breton va s'intéresser très tôt à la psychanalyse aussi, parce que le rêve, le merveilleux, tout ça a à voir avec l'inconscient tel que Breton, étudiant en médecine, le découvre plus ou moins à travers les premiers échos qu'il a du travail de Freud.
À qui il rend hommage d'ailleurs. Hein, qui...
Oui, il lui rend même visite, ça s'est très mal passé, mais il le raconte.
Mais...
C'est-à-dire, en fait, c'est un malentendu parce que Breton, d'une façon qu'on peut discuter, il exalte la folie en quelque sorte, parce que la folie lui semble libératrice, créatrice, alors que Freud, c'est pas du tout son point de vue. Lui, la folie, il veut la soigner, donc il traite du même objet, mais dans des perspectives qui sont radicalement opposées, même antagoniques. Et puis en plus, Freud avait quand même un côté, avec toute l'admiration, bien sûr, qu'on doit vouer à son génie. C'était un bourgeois qui était soucieux de respectabilité, etc. Donc quand il voit ce qu'est le surréalisme, il n'est pas très tenté d'être indulgent à l'égard de ces jeunes gens qui sont aussi des semeurs de bordel, il faut bien le dire.
Ouais. Dans ce manifeste, il écrit par exemple, il parle de l'intraitable manie qui consiste à ramener l'inconnu au connu, au classable, et manie qui berce le cerveau, dit-il.
Oui, c'est en cela qu'il est anti-rationaliste et qu'il exalte donc l'incompréhensible sous toutes ses formes.
Et tout d'un coup, dans le texte, il parle d'une voix, un jour, enfin une nuit, qui le traverse. Et c'est à partir de là qu'il va élaborer, avec Soupeau, cette fameuse écriture automatique.
Oui, c'est une expérience que chacun d'entre nous a connue et dont la littérature parle beaucoup. Il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que Breton détestait le roman, enfin en tout cas, sauf exception, mais il a servi de secrétaire, disons, au plus grand romancier français du XXe siècle, qui est Marcel Proust. Et en fait, en dépit de la détestation ou du peu d'intérêt de Breton pour l'œuvre de Proust, Le point de départ, c'est un peu le même. C'est-à-dire le début de La recherche du temps perdu, c'est « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Donc vous avez quelqu'un qui s'endort et qui, d'un seul coup, ne sait plus très bien ni où il est, ni quand il est, ni même qui il est. Voilà, c'est ce vertige-là, hypnagogique, c'est le terme savant qu'on utilise, c'est ce vertige-là dont procède aussi le surréalisme. Quand on s'endort au coup où on se réveille, on est dans un état où la perception qu'on a de la réalité se trouve altérée. Et Breton est convaincu que c'est cet état-là de la pensée, cet état naissant de la pensée, qu'il s'agit pour le poète d'interroger et dans lequel il s'agit pour le poète de puiser. C'est ça l'écriture automatique. On entend quelque chose qui nous parle, qui nous dit des choses absurdes, mais ces choses absurdes, elles sont là cependant pour nous révéler une vérité qui autrement nous échapperait.
Alors dans ce manifeste, il raconte qu'il y a une voix qui lui parle et qui lui dit qu'il y a un homme coupé en deux à la fenêtre.
Voilà. C'est ça la première phrase d'où tout procède.
Philippe Forest, je vous propose d'écouter maintenant Philippe Soupeau, évidemment co-créateur de ce mouvement surréaliste, justement à propos de l'écriture automatique et la naissance ensuite du livre, Les champs magnétiques. Comment est-elle née cette écriture automatique? Donc, c'est une interview qui date de 1984.
À ce moment-là, nous avons relié, si vous voulez, tout le symbolisme, tout même toute la période post-symboliste, tout ce qui nous avait précédé. Et c'est pour ça que nous avons cherché une issue. Et cette issue, ça a été la découverte d'un livre d'un psychiatre, médecin, qui était le médecin de Raymond Roussel, qui s'appelait Pierre Janet. Et Pierre Janet avait écrit un livre qui s'appelait « L'automatisme psychologique ». Et dans ce livre, il parlait d'une façon thérapeutique de découvrir l'inconscient, c'était l'écriture automatique. Alors ça, Breton et moi qui avions lu ce livre avec passion, nous avons dit